t-shirt se déplaçait, puis on voyait des grandes balafres, des grandes cicatrices. Je vais enfin savoir pourquoi les réfugiés tutsis que j'ai connus, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en Amérique par exemple, ont toujours été des communautés assez épanouies pour des gens qui étaient des victimes génocidaires, des communautés aisées aussi, beaucoup. Ça, c'est une grande caractéristique comparée aux autres, les Hutus, qui ont toujours été très pauvres. Je sens qu'on va expliquer aussi pourquoi, dès qu'on n'était pas d'accord, un petit peu comme nos amis aujourd'hui, les philosémites, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet même qui n'a aucun rapport, tout de suite, on vous sort la carte du génocide pour vous fermer la bouche. Comme si cette histoire de génocide devait conclure tous les débats, clouer tous les becs et donner toujours raison à ces gens-là. Donc si ça n'intéresse personne, si ça profite à personne, ben à moi, ça va me profiter.
Espérons que, comme on le souhaite, on va vous intéresser à ce voyage au Kivu, au Katanga et au Congo, en République démocratique du Congo, ce magnifique gâteau africain, pour reprendre les termes du bon roi Léopold II, qui avait fait de cet immense territoire sa propriété privée, personnelle. À ce sujet, je vous conseille un livre assez accablant et formidable d'Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié qui retrace ce que fut le Congo belge du roi Léopold. J'évoque ça tout de suite en commençant parce que je suis persuadé qu'il y a une continuité, une ligne de continuité entre cette violence initiale, celle de la domination blanche dans cette région, et la violence d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de violence auparavant, mais il y a tellement d'analogies, une succession, une filiation, on pourrait dire, que c'est intéressant d'aborder les choses de cette façon. Là, nous sommes au Kivu, au nord du Kivu, c'est-à-dire cette province qui est collée au Rwanda, et puis plus au sud, au Burundi. On est sur la frontière, on est à Goma. Et là, je l'ai expliqué hier, je me permets de vous, pour ceux qui veulent être un peu plus éclairés, de réécouter l'émission d'hier. On a essayé de donner des explications historiques sur cette région depuis 1994. Sur labas.org, la-bas.org, vous pouvez réécouter. Et ce qui s'est passé en 1994, c'est que le génocide des Tutsis du Rwanda s'est répandu dans ce qui était à l'époque le Zaïre, à la façon d'un cancer et de métastase d'un cancer. Et aujourd'hui, toujours, 16 ans après, eh bien, ça continue, même s'il y a une sorte d'accalmie, mais très, très fragile, en ce moment, dans cette région. On verra que c'est tout à fait fragile, puisqu'on assiste encore à des violences, à des massacres, à des viols dans ces régions. Mais enfin, ça n'est plus ce que ça a été, surtout dans les années qui ont suivi le génocide, surtout cette époque 96-98, qui figure en bonne place dans ce fameux rapport publié tout récemment par les Nations Unies, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, sur les crimes commis dans cette région entre 1993 et 2003. Et ce rapport a pas mal secoué l'opinion, puisqu'il évoque la possibilité d'un génocide. Non pas qu'il y ait eu à nouveau un autre génocide, ça n'est pas ce que j'ai dit, ça n'est pas non plus ce que dit ce rapport, mais il pourrait y avoir des actes qui seraient des actes génocidaires ou la possibilité. Donc la justice ne s'est pas encore prononcée sur ces crimes-là, sur ces meurtres-là. Mais par contre, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'elle le fasse un jour, qu'elle en ait les moyens. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.